RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
L'hospitalisation du pape François, on va en parler, mais avant cela, on va ouvrir le chapitre du carême que l'on a déjà commencé, déjà exploré. Vous en êtes aperçu si vous nous écoutez tous les jours. Parce que c'est le mot radicalité qui revient dans les esprits et puis dans les études aussi. En particulier auprès des jeunes, il y a une sorte de volonté de s'affirmer. C'est une volonté performative, en tout cas d'un retour à Dieu qui se manifeste par des efforts, mais... quel mot, quelle réalité faut-il mettre derrière ces efforts? On va voir la chose avec Constantin de Vergennes et Étienne Pépin. Constantin, vous sentez-vous ce frémissement dans les enquêtes que vous faites à France Catholique?
Oui, clairement, dans tous les milieux. Il faut préciser quand on parle effectivement de radicalisation, je pense qu'il voilà, y a peut-être un point de vocabulaire, parce que dans le terme, dans l'acceptation médiatique, radicalisation,
c'est très péjoratif.
Ça sonne avec l'extrémisme, l'intégrisme, si ce n'est même d'ailleurs le terrorisme. Quand on parle de radicalisation religieuse, généralement dans les médias, c'est pour parler de la radicalisation islamiste, par exemple. Je pense qu'il faut revenir au terme étymologique. La radicalisation, c'est retourner aux racines, et effectivement de ce point de vue-là, manifestement, il y a effectivement une radicalisation, notamment des jeunes chrétiens qui retrouvent le sens du carême. Je pense que c'est aussi ça qu'on a, constaté. On a consacré notre numéro d'entrée en carême justement sur la prière, la pénitence et l'aumône, qui sont les trois engagements, en constatant finalement qu'il y a non pas une invention, alors quoi qu'on pourrait revenir sur ce point, une invention de nouvelles formes de pénitence, mais plutôt une redécouverte de ce que prône l'Église.
Par quoi ça passe?
La pénitence?
Que découvrent les jeunes ou ce qu'ils cherchent?
Alors ça passe, en tout cas pour les jeunes, je pense en grande partie, effectivement c'est vrai, je pense qu'il y a la puissance des réseaux sociaux avec les influenceurs catholiques qui font redécouvrir les trois engagements de carême, notamment la pénitence. J'ai quand même l'impression que c'est la pénitence qui est vraiment la notion qui revient en force. Il y a peut-être aussi, on en parle beaucoup, la confrontation avec l'islam, avec le ramadan qui se déroule à peu près conjointement, même si carême et ramadan n'ont rien à voir, qui renvoie les chrétiens à leur propre conception de la pénitence. Voilà, en tout cas, à mon avis, les deux pistes importantes. Et puis, plus largement, peut-être, le débat de fond, c'est aussi sur la redécouverte, sur la radicalisation. Je pense qu'on ne peut pas dissocier la question de la redécouverte du carême de la question, par exemple, la question liturgique, la question de la piété populaire. Voilà, tout est lié
aussi pour vous, Étienne.
Ah oui, alors complètement. Et c'est vrai que sur RCF et Radio Notre-Dame, on a fait tout un tas de sujets, évidemment, sur le début du carême. J'ai été marqué par ce chiffre, en fait, depuis 10 ans, la recherche sur Google pour le carême a triplé. En fait, voilà, c'est devenu un mot-clé, là, depuis le mercredi décembre. Et c'est vrai qu'il y a, à mon avis, trois éléments clés qui font que le carême reprend vraiment de la force, de vigueur. Un, c'est vrai qu'il y a une confusion des genres avec le ramadan. Ça, c'est flagrant. En fait, on confond la notion de jeûne, on ne sait pas bien comment est-ce qu'il est vécu chez les chrétiens et chez les musulmans, et ça donne le désir profond chez les chrétiens d'exprimer, d'exister à travers leur rite, leur tradition. Deuxième élément, on a quand même une...
Ce n'est pas forcément une bonne raison, Étienne, en fait.
Une bonne raison, mais enfin, ça fait partie des grandes raisons.
Critères.
La deuxième raison, c'est qu'on a une explosion du nombre de catéchumènes ces dernières années, et que ces néo-catéchumènes, là, ces néo-baptisés, ces néo-chrétiens, ils veulent vivre une forme de radicalité, et là je différencierais le mot radicalité du mot radicalisation. Je crois vraiment que la radicalité a quelque chose de très positif, dans le sens où on veut être profondément ancré dans quelque chose qui nous transcende, et je crois que les néo-convertis là sont vraiment des gens qui viennent bousculer un petit peu nos pratiques chrétiennes. Et puis troisième élément, je crois que dans notre société aujourd'hui, on a besoin de vivre les choses avec son corps. On le voit avec tous les mouvements écologistes, par exemple, qui ont besoin de se rapprocher de la création, de la nature. Eh bien, les chrétiens, ils s'emparent de ça avec un jeûne vécu de manière peut-être plus sévère, plus stricte, mais on le voit aussi à travers, par exemple, les pèlerinages qui fonctionnent, qui cartonnent. C'est incroyable, les pèlerinages vraiment font le plein. Pareil, il y a une espèce de dévotion qui revient pour les reliques. Donc, il y a cette piété populaire dont vous parlez, Constantin, et je crois qu'on a besoin de vivre les choses de manière incarnée. Voilà, la foi chrétienne, c'est la foi de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, il a participé à notre vie humaine. Et bien nous, on a besoin, chrétiens, de transcender cela en se mettant vraiment, en s'impliquant vraiment dans notre corps, dans ces traditions-là.
Constantin de Vergennes.
Oui, c'est la fin de l'enfouissement. Je pense qu'on peut dire ça. Enfin, l'une des formes de la fin de l'enfouissement.
Ça vous fait plaisir, ça ?
Ça me fait non, ça me fait. Oui, à titre personnel, donc je pense que c'est bénéfique parce que c'est une clarification. L'enfouissement.
Cela dit, attendez, pardonnez-moi. Justement, est-ce que le carême chrétien n'est pas par essence enfoui dans la mesure où on ne demande pas aux chrétiens d'être visibles et non, que ça
c'est ce qu'on dit le
c'est
mercredi
ce que disent les écritures hein,
dans effectivement dans il faut se parfumer, il faut pas dire quand on donne aux pauvres, voilà, d'ailleurs il faut pas se limiter cette discrétion uniquement pendant le carême d'ailleurs au demeurant non effectivement bon contre-argument néanmoins je dirais tout de même que l'enfouissement qui était donc cette idée qu'il fallait que les chrétiens se fassent discrets, qu'ils soient le levain dans la pâte allait peut-être un peu trop loin et aller jusqu'au point que tout enseignement de l'Église ou tout conseil ou demande de l'Église pour régir, on peut dire, la vie pratique, là en l'occurrence, c'est-à-dire que le mercredi des cendres et le vendredi saint, il faut pas manger de viande et il faut sauter un repas, c'était perçu comme quelque chose d'extrêmement invasif. Donc manifestement, je pense qu'on sort de cela. Pareil, il fallait pas faire trop de processions, il fallait pas envahir l'espace public, ça on en sort aussi. Pareil pour la messe, il fallait des liturgies extrêmement dépouillées, extrêmement sobres, simples, alors que voilà, la tradition, c'est plutôt de parler de noble simplicité. Hein. Dans noble simplicité, il y a noblesse hein, collée à la simplicité, mais là, il n'y avait que la simplicité. Donc, je pense que c'est un mouvement général qui est en train de se manifester, notamment par...
Et on en sort par la pression des fidèles, plutôt que par celle de l'institution. On peut
mais
pas dire que ça vienne de l'institution.
C'est très simple, les fidèles se reprennent en main l'Église, au fond, l'Église. C'est pas les évêques et les prêtres, c'est nous tous, c'est tous les baptisés. Et au fond, c'est très sain que les fidèles prennent des initiatives. Moi, je pense par exemple, alors ça pose question, mais très bien, parlons-en. Je pense à toutes ces formes un peu radicales de carême. Il y a par exemple Exodus 90. Moi, je trouve que ça va un peu loin. Pendant 90 jours, on se prive d'alcool, de sucre, on se douche à l'eau froide, il faut faire une heure d'oraison par jour. C'est très radical, mais en même temps, je trouve que ce qui est beau, c'est que ça génère une fraternité justement dans les communautés chrétiennes et ça vient des fidèles eux-mêmes qui s'approprient leur Église. Ils n'attendent pas que ça vienne d'en haut, ils s'approprient leur Église. Je pense aussi au congrès mission, par exemple. On n'a pas demandé l'autorisation aux évêques pour créer le congrès mission, c'est les laïcs qui se sont lancés là-dedans.
Qui a un rendez-vous samedi prochain d'ailleurs, je crois.
Et c'est très bon que les laïcs, que les fidèles de base, entre guillemets, hein, avec même des néophytes, se lancent là-dedans parce que l'Église, entre guillemets, leur appartient.
Alors, quand vous dites c'est radical et c'est dur, on prend des douches froides, etc., ainsi que vous l'avez dit, mais on serait tenté de se poser la question aussi de savoir par rapport à quoi ? Par rapport à la mollesse du canapé et de la télé, oui, c'est radical. Mais par rapport à quelle exigence chrétienne, comment peut-on se référer? Comment peut-on évaluer le degré de radicalité?
Le degré de radicalité, il est quand même lié aux préconisations de l'Église, les préconisations de base. C'est-à-dire, vous le rappeliez, Constantin, jeûner le vendredi, le mercredi saint. Pourquoi pas ajouter un jour de jeûne dans la semaine? Ça peut être le mardi, enfin selon les traditions, les coutumes, et puis chacun aussi. Hein. Voilà, l'Église donne des guides. Il y a la question de la prière aussi, il y a la question de l'aumône, on évoque
apparemment, c'est
ces
pas assez exigeant pour les fidèles.
Non, mais c'est déjà des choses de base qu'on peut essayer de faire. Et je peux vous dire, j'entendais une interview hier sur RCF d'un prêtre qui disait, bon, les règles qu'on se fixe, les efforts qu'on se donne pour le carême, la plupart du temps, on les loupe. Donc, de toute façon, même si on respectait à la lettre ce que préconise l'Église, on est quasiment sûr de les louper. Alors, il y a peut-être des saints qui arrivent à tout faire ça bien, mais peut-être se donner un tout petit peu plus de radicalité, c'est s'assurer aussi de vivre ça dans une forme d'introspection, de conversion, en fait. Hein. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle. C'est ce qu'on a entendu hier à la messe du mercredi.
Mais pourquoi ça passerait par la douche froide, Constantin de Vergennes? Pourquoi ça passerait par la douche froide?
C'est une bonne question, effectivement, qu'on a abordée dans le numéro qu'on avait fait, notre numéro de carême de France catholique. On a interviewé le père Cédric Burguin, qui intervient, je crois, de temps en temps sur cette antenne, qui est canoniste au diocèse de Paris, pour faire un peu le point. Et lui se montrait, alors je ne sais pas s'il est réservé, mais il émettait quelques interrogations sur les parcours. Vous avez cité Exodus, mais voilà, globalement, tout le monde y va un peu de son parcours avec des grands engagements physiques. La grande force, à mon avis, de l'Église catholique, d'un point de vue historique, même spirituel, et ce qui fait qu'elle dure depuis 2000 ans, c'est que il y a un cadre, des règles, et que les fidèles, normalement, s'y tiennent. Si les fidèles, effectivement, il peut y avoir des départs d'initiative des fidèles, mais je pense qu'il faut distinguer les initiatives qui s'inscrivent dans une tradition et dans un cadre fixé, et les initiatives qui débordent. Exodus, par exemple, porte sans doute effectivement des fruits spirituels très, très intenses. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, Exodus, ça dure 90 jours.
Alors que le carême... Il commence juste après Noël, hein. Moi je trouve ça un peu...
Voilà, c'est une inspiration, c'est une inspiration protestante, enfin, c'est même protestant, Exodus,
ce qui n'empêche pas les catholiques de faire. C'est né quand même d'un séminariste américain qui voyait quand même ses confrères s'empâter, on va dire ça comme ça, et qui s'est dit, il faut pas qu'on reste dans un confort radical à l'excès inverse, au fond. Et en fait, c'était l'idée de les remotiver, de les encourager.
Oui, mais là, ce n'est plus du spirituel, c'est du sanitaire.
Bah, c'est toute la question de la finalité. Le père Burguin disait, un bon moyen de savoir si l'effort de carême qu'on fait est bon, c'est à la fin du carême, si on est fier de ce qu'on a fait en disant hein, je suis fort, j'ai réussi à tenir 90 jours. Déjà, disait-il, faut faire attention, c'est peut-être pas un très bon réflexe. Et aussi, et ça d'un point de vue plus spirituel, plus théologique, il expliquait, je trouve que c'est un point très intéressant, qu'il faut faire attention, il faut surtout pas avoir l'impression que après avoir fait 40 jours d'efforts, notamment d'efforts intenses, on mérite la croix. C'est-à-dire qu'on mérite Pâques et on mérite la résurrection. Parce que d'un point de vue théologique, la croix et le salut est gratuit, c'est-à-dire qu'il est offert à tous. Et dès lors que l'on pense que, parce qu'on a pris des douches froides, eh ben, on a mérité la croix. Alors, on peut même gloser après sur le terme de mérite, mais si on pense qu'on a bien travaillé et que puisqu'on a bien travaillé, on a le droit à la croix, là, c'est un
mot difficile, hein, le mérite, problématique. Hein. Je suis complètement d'accord avec vous, Constantin, et j'ajouterais que le seul qui a souffert et dont la souffrance a un sens, c'est le Christ. Il est venu, il a souffert et il est mort pour l'humanité, et notre souffrance n'a pas de sens, d'autre sens, en tout cas, de participer à cette mortification du Christ lui-même.
Justement, ça veut dire qu'il faut souffrir.
Mais alors, non,
pour s'associer aux souffrances du Christ.
La souffrance n'a pas de sens autre que celle de nous rapprocher du Christ qui lui-même a souffert. Mais il ne faut pas souhaiter souffrir. Je crois que c'est vraiment...
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il faut s'associer. Le but du...
La souffrance, au fond, si on devait souffrir ou si une souffrance avait un sens pendant ce carême, c'est pour laisser de la place au Christ lui-même. Au fond, tout ce dont on se prive pendant le carême, c'est pour laisser une place à Dieu, au Christ lui-même. Alors, par la nourriture, par la prière, par l'aumône, en voyant justement dans la personne en face de soi le Christ lui-même. Et c'est ça le sens du carême, c'est quelle place on donne plus forte, plus belle encore au Christ lui-même. Alors, le carême, c'est 40 jours par an. Bon, voilà, au fond, on est appelé à cet effort à la mesure de ce qu'est notre pauvre humanité. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de faire beaucoup plus que 40 jours. Certains font 90, je ne suis pas sûr qu'ils tiennent parfaitement. Mais en tout cas, voilà, c'est notre mesure, c'est un rappel pour nourrir notre proximité à Dieu.
Mais est-ce que les cathos ne sont pas doublés sur ce registre-là, celui de la mortification, par une vague écologiste, par exemple, qui s'impose des sacrifices tout au long de l'année? On ne mange pas de viande, on prend du tofu, je ne sais pas, on change complètement son mode de vie, et déjà on le fonde sur une sobriété radicale. Est-ce que là, il n'y a pas un train un petit peu de retard par rapport à ce que vivent déjà certains jeunes qui sont embarqués dans l'aventure écologiste, Constantin de Vergennes?
Oui, ben, je pense qu'on ne parle pas de la même chose, à moins que les écologistes prennent du tofu pour s'associer à la passion du Christ, mais je ne pense pas, alors que le jeune... on ne peut pas dissocier la mortification chrétienne de sa finalité. On ne peut pas dissocier le jeûne, l'abstinence d'un mercredi des cendres et d'un vendredi saint de sa finalité, effectivement, Étienne l'a rappelé, d'union à la passion du Christ. Après, c'est vrai que d'un point de vue plus global de la société, effectivement, il y a peut-être le retour de la pénitence et de la sobriété, mais on avait évoqué ça il y a quelques semaines sur cette antenne. Je pense que c'est un mouvement général de redécouverte de cette notion de sobriété, de pénitence. Et si toute la société redécouvre un peu de sobriété, et que pour les catholiques ça passe en plus de la sobriété par la pénitence, qui a des vertus, on va dire, spirituelles, hein, si on écoute les enseignements des papes, bon bah tant mieux.
Ce n'était pas du tout le cas d'ailleurs dans les années 60-70, vous voyez, c'était plutôt la débauche de consommation, et voilà. On a
changé de ce point de vue-là. Louis, la différence des chrétiens avec les écologistes, et il y a des chrétiens écologistes, Dieu merci.
Quand je dis écologiste, je ne dis pas écologie politique nécessairement, vous voyez, je dis la mode écologiste aujourd'hui.
La différence majeure, c'est la dimension missionnaire du carême. Alors, certes, il faut le vivre dans le secret, tel que nous est demandé à l'occasion du mercredi des cendres, mais je crois que voilà, le carême vécu sainement, saintement le plus possible, sans excès, mais quand même avec conviction.
Mais non, vous avez un parallèle, Étienne, pour sauver la planète.
C'est une véritable
mission, sauver la planète.
Mais, non, mais moi, la mission, c'est celle d'annoncer le Christ et d'être témoin du Christ. Et je crois qu'à titre individuel et à titre communautaire, vivre le carême publiquement, le faire intelligemment et en faire un lieu d'annonce, je crois que c'est assez extraordinaire. Hein. Je crois que c'est vraiment, vraiment essentiel.
Allez, on passe à autre chose, Étienne et Constantin, si vous voulez. Enfin, autre chose, pas vraiment, puisque c'est toujours dans le rayon d'action de l'Église catholique avec le pape François, dont l'État qui reste stationnaire a célébré le mercredi décembre, on le disait, de sa chambre d'hôpital où il est soigné depuis 20 jours maintenant pour une double pneumonie, source d'inquiétude grandissante. On sait, Étienne, si vous nous écoutez régulièrement, que vous nous gratifiez du bulletin médical tous les jours. On suit ça de très très près. Et on se dit qu'à la longue, la chose mérite d'être analysée parce que c'est un mode de communication aussi qui peut déstabiliser peut-être ou pas forcément être mal compris, mais qui mérite en tout cas d'être expliqué. C'est-à-dire, que se passe-t-il dans la communication du Vatican par rapport à l'état de santé du pape François ? Est-ce que ce qui a été dit pendant quelques jours peut l'être donc au long cours et jusqu'à quand cela peut-il durer ?
Et à mon avis, il y a deux choses à dire là-dessus. Un, on peut saluer quand même la transparence du Vatican. On ne peut pas dire que le Vatican est brillé par sa transparence à la fin des pontificats de Jean-Paul II et à la fin de la vie de Benoît XVI. On avait des informations, mais on ne connaissait pas l'état réel de ces papes. Alors, Jean-Paul II était encore en poste. Benoît XVI, lui, avait déjà renoncé. Moi, je salue le fait que vraiment une transparence vraiment du Vatican sur l'état de santé du pape, et au fond ça a quelque chose de rassurant de savoir ce qui se passe. La deuxième chose, c'est vrai que de tout savoir comme ça, quasiment au jour le jour, on a quand même deux communiqués du Vatican par jour. Un pour nous dire que le pape a bien dormi, un pour nous expliquer qu'il est sous ventilation mécanique et qu'il a passé une bonne journée, mais qu'il a eu des examens et qu'il a pu avoir la communion. Et qu'il a
c'est du storytelling.
Il a passé un coup de téléphone à tel ou tel. Bon, faut voir le sens qu'on y met. Et c'est vrai qu'au long cours, ça va être difficile de tenir chaque jour avec des brèves d'infos qui se ressemblent terriblement. Et je pense que ça doit aussi nous interpeller, nous journalistes, de savoir comment on traite ces infos-là. Pour l'instant, on le fait comme ça, peut-être avec le secret espoir que le pape aille mieux et qu'on se dise que le pape va sortir de l'hôpital et qu'il va pouvoir continuer sa mission, ou même que quand il sortira de l'hôpital, peut-être il fasse le choix de renoncer à la chair de Pierre. Mais je pense que si on est attaché à ces communiqués, c'est que on a le secret espoir que ça débouche sur une info positive quand même. Voilà.
Constantin de Vergennes.
Je crois pas que le pape soit tenu par un devoir de transparence, et donc j'ai peut-être une réserve par rapport à ce que venez de dire. Effectivement, c'est d'un point de vue des fidèles, c'est toujours non pas gratifiant, mais voilà, c'est rassurant d'avoir l'état de santé. Mais c'est je sais pas si on est censé, on peut aller dans cette voie-là, que ça soit une voie bénéfique à long terme. Manifestement, il y a sans doute eu peut-être un traumatisme Jean-Paul II. Où effectivement, il y a eu un flottement, on ne savait pas très bien ce qui en était. Mais finalement, c'est pas choquant que on ne sache pas vraiment quel est l'état du pape, surtout si c'est pour être d'une transparence telle qu'on arrive à des détails cliniques de crise. On va peut-être pas répéter à l'antenne, mais il y a deux ou trois jours, là,
le pape, il a eu des vomissements.
Voilà, enfin, on nous a tout raconté. Il y avait, ça c'est un ressenti.
Ça vous a choqué, vous, Constantin ?
Pour moi, il y avait quasiment une forme d'obscénité à vraiment détailler tout cela. Je pense qu'on peut dire les choses sans rentrer dans les détails, et ça reste un homme un vieil homme de 88 ans qui a des crises, effectivement, vous venez de crise de vomissement. Je ne sais pas si on a envie de rentrer dans ce genre de détails. Ce qu'ont besoin de savoir les catholiques, c'est est-ce que le pape est en vie ou est-ce que le pape est mort, et surtout est-ce que le pape s'apprête à entrer en agonie, par exemple, et auquel cas là il faut redoubler de prières. La question de l'agonie, ça va être, intéressant, puisque si ça survient dans les prochains jours, si ça dure comme Jean-Paul II pendant plusieurs jours, est-ce que c'est-à-dire que pendant deux fois par jour, les médecins vont venir nous dire qu'il est en train de rentrer dans les détails de l'agonie qui est
on
la
en a
plus
trop
grande...
dit tout de suite pour vous.
Je pense qu'on a fixé la barre un peu haut avec deux conférences par jour, et puis surtout rentrer dans les détails, de savoir la fièvre, les vomissements. Je pense que c'est trop, oui.
Je pense que surtout on pensait que ça durerait moins longtemps. Moi, si on décale un tout petit peu le sujet, je crois que en fait ça dit quelque chose. La parole du pape manque sur la scène internationale actuellement. On est dans une période extrêmement tendue entre les États-Unis, la Russie, l'Europe, l'Ukraine, l'OTAN. Et au fond, le pape avait eu des mots forts, il s'est impliqué, il s'est engagé, il a eu il y a eu un travail diplomatique de la part du pape lui-même. Il a envoyé le secrétaire d'État à droite à gauche à travers le monde pour justement jouer cette carte diplomatique du Saint-Siège dans les conflits qui traversent le monde aujourd'hui. Je pense aussi au Moyen-Orient, évidemment. Et là, en fait, on focalise l'énergie sur la santé du pape et sur sa fièvre et sur sa toux et sur sa pneumonie, alors qu'on aimerait entendre le pape avoir une parole sur l'état violent du monde, quoi.
C'est peut-être aussi une conception, du monde, une conception naturaliste de la fonction de pape, qui est simplement un chef d'État. Si un chef d'État français, européen ou autre, effectivement, était malade, on se poserait la question de savoir dire, mais qui est aux manettes? S'il peut plus faire ses réunions, il peut plus signer de papier, où va le pays? La beauté et le mystère de l'Église, c'est que le pape, être pape, c'est pas une fonction comme une autre. Et quand bien même il serait malade, quand bien même il serait mourant, quand bien même il pourrait plus tenir de réunion, il n'en serait pas moins pape qu'il y a 10 ans, quand il était en pleine forme. Et donc je pense qu'il faut aussi redécouvrir le mystère de la fonction du pape, qui est... Et d'ailleurs, c'est un article de Jean-Marie Guénois qui est paru, je crois, hier dans le Figaro, qui expliquait que selon ses informations... le pape François, ne comptait pas renoncer, puisque pour reprendre l'expression, je crois que c'était de Jean-Paul II, qui était qu'on ne descend pas de la croix. Je crois que Jean-Paul II qui avait dit ça, c'est-à-dire que même à la fin, quand on est cloué par la douleur et la mort qui approche, quand on est pape, on reste pape jusqu'au bout.
C'est une vraie question physique et métaphysique.
Mais c'est vrai qu'on a cru ces dernières semaines, et on croit toujours, certains observateurs le pensent vraiment très fort, que le pape allait renoncer s'il convoquait un consistoire pour la canonisation de futurs saints, c'était justement pour en profiter pour renoncer. D'aucuns disent que, au contraire, il s'agit de montrer que le pape est toujours aux affaires, que l'Église continue son boulot, que le pape est toujours aux manettes. Et d'ailleurs, on le dit dans les communiqués chaque jour, il continue de travailler, de signer des papiers. D'ailleurs, c'est étonnant, avec ces histoires de communiqués du Saint-Siège, on reçoit évidemment les communautés du Saint-Siège ici à la radio. Et c'est étonnant, on est peut-être plus vigilant encore sur les bolettinos qui arrivent à la mi-journée, et on se rend compte que le pape signe un paquet de documents pour des nominations d'évêques, pour le jubilé, pour signer des déclarations ou des prières qu'il envoie à droite à gauche. Et au fond, on sent que il y a malgré tout un maître à bord. On aimerait une parole public, on aimerait l'entendre nous parler des conflits qui traversent le monde aujourd'hui, et on aimerait que l'Église ait un vrai rôle à jouer dans ce qui se passe aujourd'hui.
Mais n'est-ce pas l'occasion, Étienne et Constantin, n'est-ce pas l'occasion de faire parler d'autres figures, Étienne aussi, d'autres, parce qu'on a l'impression que tout se résume effectivement à la figure du pape, tout est extrêmement centralisé sur sa personne, n'est-ce pas l'occasion en pareille circonstance, j'allais dire, de faire monter d'autres personnes médiatiquement.
Mais on n'est pas dans un préconclave.
Arrête. Non, mais sans être dans un préconclave.
J'entends des cardinaux qui disent déjà, alors le prochain pape, il fera comme ci, comme ça. Et moi-même, d'ailleurs, dans les interviews qu'on a pu mener ces derniers jours, on posait la question, ici même, qui ferait un bon pape? Quel est le profil du futur pape?
Non, mais je ne parle pas de ça. Je parle simplement dans l'entourage du pape aujourd'hui qui peut parler des affaires du monde. il y a certainement, que ce soit le cardinal Parolin, d'autres, enfin je ne veux pas citer de noms particulièrement, mais qui appartiennent en fait à la machinerie vaticane, si on peut dire, qui pourraient prendre la parole. Ces personnes ne le font pas.
Mais ils ne le font pas parce qu'en fait ça pourrait sembler être comme une campagne, justement, une campagne électorale auprès des cardinaux, auprès de l'influence publique, pour essayer de dire, moi je peux tenir la barque, et je pense que ce serait pas très sain tant qu'on ne connaît pas les intentions réelles du pape.
C'est votre avis, Constantin ? Il y a une sorte de pruderie institutionnelle un peu ?
Je pense qu'on en revient à la question de la conception de la fonction de pape, et le silence du pape dans la maladie est presque, c'est un peu jésuite ce que je vais dire, mais est une forme d'affirmation de la fonction du pape. C'est-à-dire que le pape est tellement pape que même quand il est mal et qu'il ne parle pas, il le reste quand même et il continue à exercer son pouvoir. C'est même derrière, je trouve que c'est assez beau d'assumer la faiblesse, chose d'ailleurs par exemple on n'avait pas bien compris en France médiatiquement à l'époque de Jean-Paul II. On se souvient sans doute des sketchs des Guignol qui aimait beaucoup se moquer de Jean-Paul II, qui tremblait à cause de Parkinson et qui faisait vraiment une longueur de sketch, qui voilà, se moquait de ce pape qui arrivait même plus à articuler, alors que n'importe quelle personne sensée, dès qu'elle voyait une vidéo de Jean-Paul II qui célébrait dans les dernières années, derniers mois de sa vie, qui célébrait sa messe, on comprenait à peine ce qu'il disait, les gestes étaient complètement ralentis, c'était
un témoignage
mille fois plus puissant que n'importe quelle prise de parole. Et donc je pense que cette maladie du pape François est une forme de témoignage, et que si personne, aucun cardinal ne parle autour, eh bien c'est très beau parce que ça montre l'importance de la figure du pape.
C'est aussi pour cette raison-là, hein, c'est justement pour laisser le pape exister dans tous les états qu'il manifeste. Merci beaucoup à tous les deux, merci à Constantin Vergène, journaliste à France Catholique, la une de France Catholique en deux mots.
La une de France Catholique, alors après le numéro de Carême, le forum Viva et l'engagement des chrétiens en politique.
Auquel nous serons présents, puisque vous animerez d'ailleurs une table ronde, Étienne Pépin, en forum Viva.
Nous y serons, voilà. Nous sommes partenaires aussi de l'événement, comme tous les médias chrétiens quasiment.
Merci donc, Étienne Pépin et Constantin de Vergène. Et puis bien sûr, je vous dis à demain pour un prochain débat du jour. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Cécile Mérieux pour les infos. Mais je dis d'abord bonjour à Melchior Gormand qui va prendre la suite. Bonjour Melchior.
Tout à fait, bonjour Ludo French. Je donne un indice pour l'émission à suivre, écoutez bien. J'espère que vous avez trouvé.
Ah, c'est magnifique ça me rappelle...
C'est SNCF.
Hein, voilà.
Ouais. Hey, on va parler du train dans un instant.
Bravo.
L'avenir du train en France, quelles sont les pistes aussi pour relancer son attractivité? Vous avez la parole pour en discuter avec nous au 04 72 38 20 23. Il à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook de l'émission, je pense. Donc j'agis, à tout de suite.